L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au CNAM, avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, et Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser à l'Europe et la Belgique face au terrorisme. Mardi dernier, des attaques terroristes simultanées ont frappé la Belgique, l'une à l'aéroport international de Bruxelles, l'autre au métro Melbeek, station située au cœur du quartier européen. Pour l'heure, on compte une trentaine de morts et au moins 270 blessés. Le groupe État islamique en a revendiqué la responsabilité. En mai 2014, un homme armé d'une Kalachnikov avait tué 4 personnes dans le hall du musée juif de Bruxelles. Peu après la tuerie de Charlie Hebdo en janvier 2015, une cellule terroriste sur le point de commettre des attentats en Belgique avait été démantelée à Verviers, dans l'est du pays. En août dernier, une tentative d'attentat dans un Thalys reliant Amsterdam à Paris avait été déjouée par des passagers du train. Et la semaine dernière, l'un des auteurs présumés des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam, a été arrêté dans un appartement à Molenbeek, où ont pu être abritées des personnes liées aux attentats de Paris et Bruxelles et où vivaient 2 des 3 kamikazes identifiés, les frères El Bakraoui, l'un et l'autre connus des services de police pour des vols avec violence et des braquages. Tandis que la maire de Paris mettait en cause, je cite, la forme très communautariste d'organisation de la commune de Molenbeek, le ministre français des Finances évoquait la naïveté de certains responsables belges face à ce communautarisme et l'absence de politique de prévention de la radicalisation. Les ministres belges de l'Intérieur et de la Justice ont présenté leur démission jeudi, elle a été refusée. Selon une étude récente de l'International Institute for Counter-Terrorism, la Belgique est le principal pays pourvoyeur de djihadistes étrangers proportionnellement à sa population. Des groupes comme Sharia for Belgium, aujourd'hui dissous, sont connus pour avoir favorisé le recrutement de djihadistes dans les grandes villes belges et avoir formé et envoyé de nombreux jeunes en Syrie, où ils seraient actuellement près de 300. Les services de renseignement belges comptent 3 fois moins d'agents que ceux des Pays-Bas. À la suite des attentats de Paris en novembre dernier, la Belgique avait annoncé une rallonge budgétaire de 400 millions d'euros pour renforcer la sécurité du pays. En France, jeudi soir, une opération policière a permis, selon le ministre de l'Intérieur, d'empêcher un nouvel attentat. Nicole Niesotto sur cette question.
Alors, évidemment, un tel attentat suscite beaucoup d'émotions et donc sans doute beaucoup de confusion. Et je pense qu'il faut distinguer plusieurs dimensions dans ce qui s'est passé en Belgique. Il y a évidemment d'abord une dimension belge. Alors je ne dirais pas qu'il y a une responsabilité particulière de la Belgique, mais il y a une vulnérabilité particulière de la Belgique par rapport aux attentats terroristes. Vous l'avez dit, c'est le plus grand pourvoyeur de djihadistes et beaucoup de membres ou de réseaux qui ont participé aux attentats des 2 dernières années ont eu un lien avec Molenbeek ou une banlieue de Bruxelles. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, je crois que c'est la faiblesse de l'État fédéral belge. Il est tellement fédéral qu'à la limite, il n'a plus de colonne vertébrale régalienne. Je rappelle qu'en 2011, la Belgique a vécu plus de 500 jours sans gouvernement. Donc, pour des services de renseignement, pour des services de police, c'est quand même très très difficile d'agir de façon coordonnée avec une politique unique, un objectif unique, quand il n'y a pas de structure étatique constituée. Donc ça, je crois que c'est une raison belge importante qui explique la faiblesse du maillon. Il y a une deuxième spécificité qui est Bruxelles, région capitale, qui a un statut particulier, qui est une région autonome avec 19 communes autonomes. Donc là aussi, une organisation qui ne facilite pas la coordination des services de police. Il y a une histoire de l'immigration à Bruxelles, qui est une immigration essentiellement d'origine maghrébine, voire marocaine, et qui est héritée de l'immigration qui a quitté le nord de la France lors de la crise de la sidérurgie dans les années 70, avec un taux de pauvreté extrême dans ces populations, en particulier à Molenbeek, 40% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Et enfin, il y a cette fameuse idéologie communautariste ou multiculturaliste qui n'est pas de la naïveté, je crois, qui est une conviction sincère, mais comme toujours, la tolérance extrême envers les diversités culturelles mondiales se traduit par une érosion extrême des lignes rouges démocratiques et des valeurs démocratiques, sous prétexte que tout est possible, finalement tout est permis. Donc ça fait, et plus, pardon, j'oubliais la raison purement géographique, c'est que la Belgique est un carrefour européen à mi-chemin entre l'Allemagne, la France, le Sud, etc. Donc ça fait un certain nombre de raisons pour lesquelles la Belgique a effectivement une vulnérabilité particulière à l'égard du terrorisme. On peut dire que c'est un carrefour, c'est un hub de l'implantation des réseaux. Mais je crois qu'on aurait tort de ne voir que la responsabilité de la Belgique. Il y a deuxièmement une dimension transeuropéenne au terrorisme islamique aujourd'hui, même si aujourd'hui Bruxelles est le maillon faible, d'autres maillons faibles existent, ce n'est ni le seul ni le dernier. Nous avons les nôtres en France et pas forcément dans les banlieues d'origine immigrée. Je rappelle que le Lunel est un grand pourvoyeur de djihadistes, la Bretagne aussi, une petite ville comme Plomeur envoie un nombre incroyable de djihadistes en Syrie. Il y en a également à Nantes, à Rennes, etc. Salah Abdeslam est français, bien évidemment, même s'il était en Belgique. L'Allemagne a également une très grande vulnérabilité. Je rappelle que les attentats de 2001 contre le World Trade Center avaient été fabriqués par des ingénieurs en électronique qui étudiaient à Francfort. Hambourg. L'Italie et l'Espagne également ont les gouvernements arrêtent de façon très régulière et encore au début mars de cette année des réseaux djihadistes très implantés et on se souvient de l'attentat à la gare de Madrid en 2004. Donc il y a cette dissémination géographique des réseaux est doublée d'une dissémination par les réseaux Internet. Il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, Internet, pour les réseaux terroristes, c'est une suppression supplémentaire de l'implantation géographique. Et donc, je dirais que sur le plan géographique, nous sommes tous, non pas unis dans la diversité, comme le dit le traité de l'Union européenne, mais unis dans la vulnérabilité. Et enfin, troisièmement, il y a la dimension Union européenne. Je termine rapidement.
Désunis
dans la vulnérabilité, oui. Il y a la dimension Union européenne. Et là, je crois qu'il faut être un peu sévère sur la responsabilité de l'institution Union européenne, non pas tant au niveau des responsables politiques. Tous les responsables politiques sont convaincus depuis longtemps que la menace est commune et que la vulnérabilité est partagée, mais au niveau simplement de la mise en œuvre des politiques. Ce qui est frappant, c'est cette culture de l'écrit à l'Union européenne. C'est-à-dire, il y a des conclusions des conseils des ministres de l'Intérieur ou des chefs d'État qui entérinent un certain nombre de choses très importantes dans la lutte contre le terrorisme. Mais ensuite, la mise en œuvre peut mettre des années et des années. Je donne un exemple. Le PNR... traîne encore au Parlement européen alors que finalement il y a un accord des chefs d'État et de gouvernement depuis décembre. Le fameux mandat d'arrêt européen décidé en 2001 après le World Trade Center, on a mis 3 ans à le mettre en œuvre jusqu'en 2004. L'affaire des gardes frontières, c'est pas tellement lié au terrorisme, mais quand même, quand Mitterrand et Kohl signent Schengen en 95, ils disent il faut très vite constituer un corps de gardes frontières européen. N'existe toujours pas. Autrement dit, il y a dans l'Union européenne un énorme décalage entre la décision politique qui est à peu près raisonnable et on time et la mise en œuvre des décisions qui, elle, alors pour mille raisons dont on reparlera sans doute tout à l'heure, qui prend un temps considérable.
Michaël Avigue.
Oui, alors en complément, j'aurais aimé développer un peu cette idée de quelle immigration la Belgique était l'objet. Parce que c'est un chapitre très intéressant qui nous plonge un petit peu dans notre histoire européenne un peu refoulée. Parce que la majorité des immigrants, notamment à Bruxelles, viennent du Maroc et non pas de tous les parts du Maroc, mais du RIF. Et donc... on peut constater, et il y a des historiens qui ont étudié ce phénomène, une culture vraiment portée par les différentes expériences de révolte toujours pas abouti, et on voit là les Espagnols, les Allemands aussi qui ont bombardé plus tard les Français et après le roi Hassan II. À chaque fois, cette population était en quelque sorte objet de représailles, et ça a forgé une culture qui s'est en quelque sorte transportée dans des communes comme Molenbeek, où on fait en quelque sorte le constat que il y a cette omerta qui a persisté, et donc ça explique pourquoi quelqu'un comme Salah Abdeslam a pu pendant des mois apparemment être même dans la rue sans être dénoncé par quelqu'un, parce qu'il paraît que il s'est même déplacé, il n'était pas caché quelque part d'après ce qu'on sait aujourd'hui. Et Nicole, vous venez de dire, c'est Salah Abdeslam est évidemment français, mais finalement quand on regarde son histoire familiale, là aussi ça nous renvoie, ses parents étaient nés à Oran, dans l'Algérie à l'époque française, et ils ont bénéficié à l'époque de cette volonté de donner la nationalité française à des musulmans qui paraissaient plus à même à intégrer cette idée d'Algérie française. Et donc, ils ont obtenu le passeport français en ce moment-là. Après, ils se sont installés au Maroc, justement dans la région du Rif. Et c'est comme ça, leurs enfants ont obtenu la nationalité française. Donc, c'est quand même assez fou de constater que tout est lié en quelque sorte à notre histoire. Alors, un dernier point sur la responsabilité européenne. Notre ami Joachim Bitterlich, l'ancien conseiller diplomatique du chancelier Kohl, a fait un excellent papier sur l'histoire de Schengen et les ratés en quelque sorte, parce qu'il dit que c'est un petit peu comme l'histoire de l'Union économique et monétaire. On avait bien vu au départ que quand on crée un espace qui, à l'époque, la première idée remontait à 5 des 6 États fondateurs, donc c'était quand même un espace assez restreint, mais ils avaient tout de suite dans l'idée qu'il fallait avoir des mesures au niveau policier et qu'il fallait avoir aussi des mesures de contrôle au niveau fiscal. Alors que rien n'a été fait. Alors, il raconte en 1988 au Conseil européen de Rhodes, Kohl avait prononcé l'idée de créer un FBI européen. Tout le monde a dit oui, ça sonne bien, mais rien n'a été finalement réalisé. Donc, en 1998, quand Schengen a été conclu, on s'est juste mis d'accord sur la libre circulation, mais créé Europol. Europol, c'était en juin 91, encore une fois, grâce à une volonté de Helmut Kohl de mettre en avant ce sujet. Et finalement, malgré des différentes tentatives, et Bitterlich le raconte de façon très convaincante, rien n'a été fait. Et j'aimerais pas déplaire aux Français, mais apparemment la France, elle commence à transmettre tous les profils des terroristes présumés à Europol que depuis les attentats de janvier.
Thierry Pêche. Voilà, chacun a sa part de manque de réalisme. Si on considère que l'origine du problème est aussi en Syrie, il faudrait que tous s'y impliquent de façon plus active, probablement. En tout cas, qu'on ait cette discussion de façon explicite des deux côtés du Rhin. Ces nouveaux attentats, parce que malheureusement, ce sont de nouveaux attentats, et on sait qu'il y en aura d'autres, et on sait qu'il y aura des pertes, et on peut pas couturer la Constitution à chaque fois qu'il y a un attentat, changer les règles du jeu, changer les lois. Il va falloir serrer les dents et tenir bon, comme titrait, je crois, un journal de Bruxelles récemment. Ces nouveaux attentats, néanmoins, font progresser un certain nombre de débats, et la question des causes de ces attentats et de ces violences revient à nouveau sur le devant de la scène, et de façon, je crois, importante, parce que on peut dire oui, il y a du multiculturalisme en Belgique, ça a vulnérabilisé la Belgique, mais en même temps, il y en a aussi aux Pays-Bas, et aux Pays-Bas il n'y a pas eu d'attentats. En France, il n'y a pas de politique multiculturaliste et il y a des attentats. Donc, le problème n'est pas tellement là. On peut dire c'est un effet de la misère sociale mal. Mais enfin, ça se saurait. Je veux dire, si la misère enfantait des kamikazes, le monde serait rempli de kamikazes. J'ai le souvenir de ce que aimait à rappeler Robert Castel. Il disait jamais le malheur des hommes n'a suffi à faire un problème social. Eh bien, jamais le malheur des hommes n'a suffi à faire le djihad. Il faut qu'il y ait des éléments de transformation pour passer à ce type de violence qui est une violence religieuse. Et je pense que il faut apprendre à reconnaître à nouveau des facteurs dans ces débats qui sont des facteurs religieux et culturels. Le livre de Jean Birnbaum, de ce point de vue, à mon avis, doit être salué. C'est un livre sur un silence religieux. Simplement, il faut savoir de quoi on parle. On ne parle pas de l'islam, on parle d'un certain islam, du salafisme djihadiste. Et il faut essayer de rouvrir un peu notre conscience à ce qu'est ce religieux-là. Alors, pour préparer cette émission, j'ai pas lu des articles de presse. J'ai rouvert un livre que je considère être un très grand livre d'histoire, qui s'appelle « Les guerriers de Dieu » de Denis Crouzet, sur ce qu'ont été les violences religieuses en France au XVIe siècle. Et il montre ce qu'est profondément la religion dans des moments de crise eschatologique ou dans des moments de perturbation symbolique des sociétés. Et la religion, c'est un formidable régulateur de peur, organisateur de passion, constructeur d'imaginaire. Le catholicisme furieux des guerres de religion a été notamment une réponse à une grande angoisse eschatologique. Il faut se remettre dans ce bain-là pour comprendre peut-être ce qu'ont dans la tête des djihadistes. Quel imaginaire eschatologique les porte, les gouverne, les pilote. Bon. Et on comprendra à ce moment-là qu'effectivement ce salafisme est aussi dangereux pour nos sociétés ouvertes, pour nos démocraties, que l'a été d'une certaine façon ce catholicisme furieux des anciens temps. Et les sociétés ouvertes, il faut les défendre, mais il ne faut pas les défendre en renonçant à ce qu'elles sont, il ne faut pas les défendre en les refermant. Il faut les défendre en à la fois luttant contre les discriminations, à la fois défendant le pluralisme et en même temps affirmant ce qui n'est pas négociable, entre par exemple sur l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui n'est pas négociable, sur un certain nombre de principes qui nous constituent et dans lesquels nous croyons.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, sur la guerre de religion, quand même, il faut maintenir la balance égale. Hein. Je ne crois pas que le baron des Adrets ait beaucoup de leçons de morale à donner à Blaise de Montluc.
Non, Jean-Louis.
Justement, c'est pour ça que je le relève, parce que je suis entièrement d'accord avec entièrement d'accord avec l'analyse de fond que vient d'évoquer Thierry sur les caractères ravageurs et très profondément perturbateurs des sociétés de l'irruption des phénomènes religieux. Savez-vous, par exemple, à quel moment les sorcières, il y a eu le plus de procès en sorcellerie? À quelle époque? Vous posez spontanément la question aux gens, ils vous disent au début du Moyen-Âge. C'est pas vrai du tout. C'est au XVIIe siècle, quand même. Parce que c'est au moment, et ça apparaît vraiment comme un phénomène global à la fin du XVe siècle, du XIVe siècle, et comme totalement lié aux hérésies, à la fracture religieuse qui s'empare des sociétés. Donc je crois que, et ce qui est formidable d'ailleurs dans l'affaire de la sorcellerie, c'est que ça s'effondre complètement au milieu du XVIIe. C'est-à-dire que, à partir du moment où on passe à l'état, après la fin de la guerre de 30 ans, quand on passe à l'état rationnel, l'état cartésien, l'état Richelieu, il n'y a plus que, Michel Blaise avait fait une analyse sur les sorcières à la frontière belge, justement, de Marchienne. Et on voyait bien, il montrait bien que c'était sous Louis XIV, mais que c'était des juridictions locales qui n'étaient pas encore gagnées par cette espèce de rationalisme de l'état central colbertiste. Et c'était donc apparaissait comme une survivance. Enfin voilà. Mais je crois qu'effectivement, on peut pas comprendre ce à quoi nous sommes confrontés si on ne se réfère pas à des catégories dont nous ne sommes pas, que spontanément nous n'arrivons pas à reconnaître, que nous soyons protestants, catholiques, agnostiques ou tout ce qu'on veut. On n'arrive pas à assimiler nous-mêmes cette espèce de profonde pulsion de violence qui est impliquée par les divisions religieuses. Alors sur l'affaire dont nous parlons, je voudrais faire trois remarques. La première, c'est que effectivement Sapin et quelques autres, parce qu'il n'est pas le seul, à droite aussi, il y a eu des débordements, sont extrêmement maladroits parce que il faut quand même partir de l'idée que entre l'arquebuse et la cuirasse, c'est-à-dire entre ceux qui font des attentats et ceux qui essaient de s'en protéger, la balance est structurellement est structurellement en faveur de l'arquebuse, en faveur de ceux qui commettent des crimes, et que nous subirons d'autres attentats, qu'il y aura d'autres morts, que ce sera très difficile, et que l'idée à chaque fois de rechercher, non pas des causes, mais au-delà des coupables qui sont ceux qui posent les bombes et leurs commanditaires, de chercher des responsables ici ou là dans la sphère publique, c'est un jeu facile et qui fait en fait le jeu des djihadistes, car en réalité, il faut voir que même si je suis conscient que les services ont fait des erreurs, par exemple, toute la théorie du loup solitaire qui a été propulsée avec l'affaire Mera, apparemment est fausse. On voit bien que c'était des réseaux, et les mêmes réseaux qui du temps de Mera, qui ont frappé à Charlie Hebdo, et qui ont frappé au Bataclan, et qui ont frappé en Belgique. Donc il y a des erreurs d'analyse, mais c'est extrêmement difficile, et je crois qu'on doit être... on ne doit pas donner tous les pouvoirs à la police, qui est une tentation funeste, mais on doit être extrêmement respectueux et modeste, respectueux de ceux qui font ce très difficile travail et modeste quant à l'obtention des résultats. Sur la Belgique, je dirais que là encore, on est vraiment, les Français sont quand même assez gonflés. Parce que bien sûr que la Belgique a tous les défauts de la terre et quelques-uns plus et quelques autres encore. Ce que si vous voulez avoir un bon pamphlet sur la Belgique, vous lisez Baudelaire et on peut pas imaginer mise en cause plus systématique de la Belgique que par Baudelaire. Mais la Belgique, en l'occurrence, c'est un idéal type de la France. L'idéal type, je donne la définition de Max Weber de l'idéal type, c'est une appropriation caricaturale des propriétés de l'objet. Et la Belgique, on dit, la Belgique, c'est un incroyable imbroglio administratif, avec effectivement 19 communes à Bruxelles, 6 parlements, 6 gouvernements. Enfin, j'ai jamais entendu parler que le millefeuille administratif en France fût un chef-d'œuvre de simplicité. Donc, deuxièmement, on nous dit le communautarisme. Ah, c'est très mal le communautarisme. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'entre le maire de Molenbeek, là, qui paraissait relativement complaisant à l'égard de ses électeurs islamistes, et les comportements ordinaires d'un élu responsable, il y a une grande marge. Mais j'ai quand même cru constater qu'en France, il y avait d'énormes zones de non-droit, il y avait des isolats dans lesquels les communautés faisaient à peu près ce qu'elles voulaient, où la police ne rentrait pas, etc. Et là encore, c'est très difficile. La théorie de Sarkozy, c'est qu'en fait, il fallait laisser ça comme ça et puis protéger les honnêtes gens, que les bons se rassurent et que les méchants tremblent, comme on disait sous Napoléon III ou sous la Seconde République. D'autres disent faut mettre des éducateurs. Enfin, tout ça est très difficile, mais le résultat, c'est qu'en France, on a quantité de zones qui vivent d'une économie illicite, de la drogue, avec une frontière entre le djihadisme et le terrorisme, toutes les caractéristiques qu'on voit à Molbeck. Quant aux Marocains, effectivement, ils viennent du RIF. Le RIF, c'est quand même... Alors nous, on avait quand même su traiter avec courage le problème du RIF, puisque le général Pétain avait, je crois, utilisé des gaz... Non, c'est les Espagnols qui avaient utilisé du gaz sarin, qui avait été mis à la disposition par les autorités.
Pétain s'est contenté de venir avec des effectifs considérables.
Oui. Tout ça, le RIF, effectivement, c'est quand même une production marocaine. La bonne conscience qui fait la naïveté, comme dirait M. Sapin, on en a notre part. Hein. Je me rappelle qu'à gauche, on disait, il n'y a encore pas très longtemps, c'est le sentiment de l'insécurité qui gagne et pas l'insécurité. Il y avait des tas de trucs comme ça. Donc, sur l'Europe, juste un mot sur l'Europe, je crois qu'il faut... je trouve qu'il faut être modeste là aussi. Et sur l'Europe, je suis quand même frappé de la contradiction. Parce que pourquoi ça... Effectivement, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que les États s'y opposent. Le corps de garde-frontière, demandez à Tsipras s'il en veut. Il n'en veut pas du tout. Il est profondément souverainiste. Les frontières belges, les frontières grecques, c'est à moi de les surveiller. Et, bon, d'accord, je ne les contrôle pas, mais c'est à moi de ne pas les contrôler. Et deuxièmement, le PNR. Un mot encore sur le PNR. Je rappelle que le PNR, auquel le Parlement européen avait opposé la guerre, des objections fondées, savoir où vont les informations ultérieurement. Mais là, qu'est-ce qui s'oppose le plus vivement au PNR? C'est le Front National. Alors, il faut quand même qu'il se foute vraiment de notre... Notre, notre pomme, cela. Parce qu'ils disent, en fait, c'est un truc européen, donc ça ne marche pas.
Nicole Nisotto.
Oui, juste sur le point PNR, c'est extrême droite et extrême gauche ensemble.
Oui, bien sûr,
contre
comme toujours.
Mais c'est vrai que Marine Le Pen a dit qu'elle était contre parce qu'elle n'était pas sûre de maintenir les informations en Europe et que ça partirait aux États-Unis et que ça, c'était un vrai scandale. Moi, je voudrais revenir sur... D'abord, je voudrais partager avec vous une interrogation d'actualité immédiate. Pourquoi des réseaux terroristes, bien implantés dans une banlieue bruxelloise, décident-ils de détruire leur base arrière? Autrement dit, pourquoi tout d'un coup transformer une base logistique en cible? Parce que c'est ce qui va se passer maintenant. La police va faire le ménage à Molenbeek et dans les autres banlieues. Et donc, je trouve que sur le plan de la prévision, si on peut dire, des attentats, il y a quelque chose de là d'étonnant. Alors que Bruxelles était vraiment le havre, le théâtre, le sanctuaire des terroristes, pourquoi décide-t-il de le détruire? Alors, moi, j'ai plusieurs hypothèses, mais vraiment, c'est une interrogation qui m'inquiète sur l'avenir. Mais la première hypothèse, c'est que soit il pense que la base est grillée, parce que Salah Abdeslam va parler, etc., et il se dépêche de passer à l'acte avant d'être arrêté. Deuxième hypothèse, c'est qu'ils ont déjà reconstitué arrière des bases arrière plus sûres, plus secrètes, moins connues, et que finalement, maintenant, ils peuvent taper la capitale de l'Europe parce qu'ils ont déjà des réseaux extérieurs. Troisième hypothèse, c'est que ces groupes ne sont contrôlés par personne, sont dans une espèce de folie. Et mais quand même, pour moi, c'est une interrogation. Pourquoi détruire son sanctuaire? J'avoue que je ne comprends pas. Mais le point sur lequel je voulais revenir, c'est sur l'origine de cette vulnérabilité à la fois belge et européenne au terrorisme. Je crois que si on dit que le terrorisme est la manifestation à l'intérieur de nos sociétés de conflits non résolus à l'extérieur de l'Europe, alors les Européens sont victimes de leur propre abstention stratégique depuis un quart de siècle. Cette volonté de ne pas vouloir s'occuper du monde, de laisser aux États-Unis le soin de la gestion du Moyen-Orient, voire de laisser à quelques États membres, la France et la Grande-Bretagne, selon les années, cette volonté de ne pas vouloir voir la dégradation de l'environnement au sud de l'Europe, se retourne aujourd'hui contre les Européens de deux façons. Par le terrorisme, bien sûr, par les réfugiés, évidemment. Et je crois que là, il y a une très grande réflexion que les Européens doivent avoir sur l'impossibilité à l'avenir de maintenir une ignorance et un désintéressement physique à l'égard des crises extérieures. Je crois que la vraie réponse européenne serait d'avoir un peu d'imagination diplomatique et d'essayer d'imaginer pour le Levant quelque chose qui permette de tarir à la source extérieure du terrorisme.
Thierry Pêche.
Oui, le problème n'a pas qu'une source extérieure. Il en a une, c'est sûr, mais il a aussi des sources intérieures.
Certes.
Et c'est ce que je voulais souligner tout à l'heure. Mais je vous rejoins complètement, Nicole, sur le... je l'ai moi-même beaucoup dit à ce micro, sur l'appel à la responsabilité géopolitique des Européens. Les Français, les Britanniques ont encore un peu cette idée en tête, mais ils sont bien seuls. Et je crois qu'il y a là un défi... pour l'Allemagne dans les années qui viennent. Je l'ai souvent dit, on va sans doute en reparler. Par ailleurs, sur les hypothèses que vous faites, Nicole, moi je penche plutôt, sans connaître et sans avoir d'expertise particulière, du côté de la troisième. Je crois que les passions religieuses, en l'occurrence, ont une part dans ces affaires qui est... Je pense notamment à tout ce qui a été publié au sujet du quasi-testament d'un de ces djihadistes qui semblait être... dans l'emportement, la précipitation, beaucoup plus que dans la stratégie, à vrai dire. Hein. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse une place, en tout cas, à des choses qui n'ont rien à voir avec des considérations stratégiques dans le passage à l'acte et dans les modalités même de la violence de ces gens. Il y a sans doute un mix qui est difficile à établir entre de la tactique, de la stratégie et puis de la passion.
Et de la bêtise.
Michaela
Wiegel. Oui, j'ai toujours été la première à être d'accord que l'Allemagne doit mieux définir ses intérêts stratégiques et plus s'impliquer. En même temps, je dois dire aussi que je comprends que suite à l'expérience libyenne, on n'est pas très chaud de suivre aveuglement les Britanniques et les Français parce qu'on a l'impression que le résultat est pire que ce qu'on avait avant. Et je dois dire aussi, ce qui me fascine, alors que je n'ai aucune sympathie pour le régime autoritaire de Erdogan, ce qui me fascine, c'est que dans toutes ces affaires de terrorisme, on voit le rôle central de la Turquie. On voit que la plupart des informations, comme la plupart d'ailleurs des djihadistes, transitent par la Turquie. Et donc, il me paraît pas inutile que la diplomatie allemande cherche ce contact très, très, très étroit avec les responsables à Ankara. Et que donc, sur ce plan-là, on a probablement un peu critiqué, mais c'est certainement pas par naïveté qu'ils le font. Mais je pense réellement que sur ce plan-là, la diplomatie allemande n'est pas complètement à côté de ce qui se passe.
Jean-Louis Bourlange ?
Oui, enfin, la personne n'a jamais accusé Mme Merkel dans cette affaire turque d'être naïve. Sauf qu'elle a quand même, on a quand même négocié dans des conditions extrêmement déséquilibrées. Et de toute façon, moi, je trouve que si on avait, par exemple, fait beaucoup plus d'efforts à partir du moment où la frontière était, où la frontière macédonienne était bloquée en Grèce, Tsipras était quand même amené à revenir sur cette espèce d'indifférence consistant à dire, je m'en fiche que les migrants arrivent chez moi puisqu'ils partent. Ils partent en Allemagne. Là, ils partaient plus. Et je pense qu'on aurait quand même, on pourrait faire un effort considérable pour transformer la Grèce en un véritable hotspot avec solidarité financière, prise en charge des réfugiés, ce qui relâcherait quand même très profondément la capacité de nuisance d'Erdogan, qui est considérable. Et la négociation, ce qui est inadmissible dans la négociation avec les Turcs, c'est pas qu'on est payé, c'est qu'on accepte de réouvrir, de relancer la négociation, alors même qu'on est en face de violations caractérisées des droits de l'homme. Je voudrais quand même dire un mot sur autre chose, sur la réponse, en écho à ce qu'a dit Thierry, je crois effectivement que on doit, pour avoir une approche évidemment centriste de l'affaire, je crois qu'on doit vraiment tenir compte de l'offre et de la demande. Je pense que la querelle entre Olivier Roy et Keppel est une querelle qu'on devrait pouvoir les mettre d'accord.
Vous en donniez les termes, parce que tous les auditeurs
écoutez,
ne sont
Olivier
pas...
Roy, c'est quelqu'un qui livre, on a affaire à une islamisation du radicalisme. Donc, ouais. L'origine des problèmes, ce sont les dysfonctionnements de la société française ou de la société belge, avec tout un ensemble de gens qui sont complètement paumés et qui font que des sottises. La thèse de Keppel, c'est qu'on a affaire à une radicalisation de l'islam, de l'islamisme, à travers le salafisme et qui bascule dans un djihadisme actif. Ben, moi, je crois que c'est... Enfin, pour... notre ami Alain Finkielkraut avait fait une émission là-dessus qui était très claire. Je crois que c'est vraiment la rencontre de l'offre de l'offre de guerre sainte djihadiste à partir des salafistes avec une demande venant de la société française et que donc il faut tenir les deux bouts de la chaîne et si j'ose dire réconcilier Valls qui insiste beaucoup sur les origines extérieures de tout ça et Macron. Moi, je suis pour la paix du gouvernement. Et Macron, qui lui dit, il y a un problème intérieur dans nos sociétés françaises.
C'est un véritable message, Pascal.
Oui, ça, on va. Non,
mais on aura apprécié qu'au cœur du centrisme se trouve la loi de l'offre et de la demande.
Oui, oui. Je n'avais pas noté ça. C'est fondamental.
Il me semble en effet que, puisqu'il y en a partout, le gouvernement devrait bien avoir son médiateur à l'intérieur de lui-même et que Jean-Luc Bourlange est entièrement qualifié.
Prendre un homme du centre comme médiateur de la gauche, ce serait pas mal quand même.
Moi, je vote pour Jean-Luc Bourlange, médiateur du gouvernement.
Nicole, non, oui, ça, je crois qu'il va falloir attendre, puisque on est capable, il va falloir attendre la Pentecôte pour que ça arrive.
juste une réaction quand même sur la diplomatie turque de Mme Merkel. Moi, je suis très admirative, surtout, en particulier sur ses déclarations sur les réfugiés. Je suis très admirative de la politique de Mme Merkel, sauf sur l'accord avec la Turquie, qui est un accord qui est un piège, qui est un accord, je dirais, presque infamant pour l'Union européenne, parce que je ne crois pas que la solution soit, premièrement, de donner les visas aux Turcs, ce qui est une façon, à mon avis, de pas vraiment contrôler les frontières. Deuxièmement, que l'échange d'un bon réfugié contre un mauvais réfugié, c'est quand même, on a déjà vu mieux pour la défense des valeurs européennes. Le dernier point sur lequel je voulais... pardon, mais je crois que là, il y a eu une erreur de fait de la part de Mme Merkel. Le dernier point simplement sur à la fois sur les origines et sur la réponse. Moi, il me semble qu'il faut beaucoup insister sur le fait que cette menace terroriste, ça n'est pas l'affaire de quelques années. C'est une question de génération. Je crois que c'est une affaire de génération. De même qu'on dit qu'il y a eu une génération Mitterrand, il va y avoir une génération terroriste. Moi, j'ai une fille de 22 ans. Je pense qu'elle va connaître une société profondément bouleversée. traversé par cela jusqu'à 35, 40 ans. Et je crois qu'il faut accompagner ce mouvement, prévenir les sociétés que ça n'est pas justement un épiphénomène, qu'il y a quelque chose de profondément pourri, entre guillemets, à la fois au Moyen-Orient et dans l'inégalité de nos sociétés.
Michaela Figuel.
Oui, alors sur ce fameux accord, j'aimerais quand même rappeler que c'est l'accord maintenant des 28. Donc ce n'est pas l'accord d'Angela Merkel. Dans l'histoire effectivement de la genèse, on peut dire qu'Angela Merkel était très seule. Je rappelle, elle est allée voir son ami François Hollande deux jours avant de discuter avec le ministre président, le premier ministre turc. Visiblement, cette rencontre n'était pas si concluante parce que sinon, elle aurait probablement été avec François Hollande discuter ensemble. Donc, je défends pas sur le fond ce qui a été conclu parce que, comme on vient de le dire, rien n'est sûr dans l'application de cet accord. C'est un accord qui est né dans l'extrême urgence, mais qu'il fallait en quelque sorte négocier prioritairement avec la Turquie, je crois, sur cette question, il n'y a pas beaucoup de doutes.
Je voudrais juste signaler, parce que ça contredit partiellement les propos que vous avez tenus, l'article dans La Libre Belgique, j'en mettrai les références sur le site, d'un sénateur centriste ou centre-droit, libéral en tout cas, Alain Destex, qui rappelle à quel point la situation à Molenbeek avait été l'objet d'alerte dès 2004 et que même en 2008, une journaliste flamande d'origine marocaine avait publié un livre en sous-marin dans le Petit Maroc qui disait à quel point c'était pas seulement une affaire de communautarisme, c'était une affaire de préparation et de radicalisation sur laquelle il n'était pas permis d'attirer l'attention sans se faire traiter de tous les noms, y compris par le maire socialiste de Molenbeek de l'époque, se faire traiter de Goebbels, ou d'utilisateur des méthodes de Goebbels. Il y a dans cet article une quantité de faits...
Goebbels et les djihadistes.
C'est pas des djihadistes qui parlaient, c'est des journalistes qui disaient on est en train de préparer le djihad à Molenbeek sous nos yeux et personne ne bouge. Et quand on disait on se faisait traiter de Goebbels. Donc je mettrai les références de cet article parce qu'il est une succession de faits dont je pense qu'il est très intéressant de prendre conscience. Thierry Pech.
Je pensais que c'était fini sur ce premier sujet. Je voulais dire à quel point j'étais d'accord avec tout le monde aujourd'hui. Ça arrive rarement.
Vous pouvez partir.
Je voudrais dire pourquoi quand même. Sinon, je prends des risques.
Dites-le vite.
Je suis d'accord avec Jean-Louis quand il dit réconcilier les deux rives, Roy et Keppel. Je pense que les sciences sociales ne peuvent trouver qu'à s'enrichir dans cette affaire, à intégrer tous les éléments de la problématique.
Elle est seule. Hein.
Non, mais attendez. Oui, c'est certainement. Moi, je me souviens, quand j'ai édité Hugues Lagrange, Le déni des cultures, c'était vraiment pas simple. C'était il y a quelques années. La culture a sa place dans les sciences sociales. La religion a sa place dans les sciences sociales. Il faut enrichir le bouquet d'explications. Et je voudrais dire que je suis d'accord avec Michaela quand elle dit que les Français n'ont pas toujours été très bien inspirés en Libye ou ailleurs, ni les Britanniques, mais que les Allemands viennent dans le cercle de la discussion sur ces questions géopolitiques. Pour le moment, ils n'y sont pas. Et sans doute, ils nous apporteront plus de lucidité.
Comme on le dit beaucoup, et j'espère comme on le pense beaucoup, il faut continuer, quels que soient les attentats. Et par conséquent, il faut s'intéresser à d'autres sujets qui sont éminemment moins dramatiques. Et je vous propose de nous intéresser à la situation de la droite, et notamment à la situation de la droite après le vote des adhérents de l'Union des démocrates et indépendants, donc l'UDI, qui dimanche dernier se sont prononcés contre une participation des centristes à la primaire qui désignera en novembre prochain le candidat de la droite à l'élection présidentielle. Près de 30% des votants ont soutenu la participation du centre à cette primaire, mais les deux tiers ont réclamé au préalable un accord avec la droite. Les négociations avec le parti Les Républicains ont donc officiellement commencé. Elles avaient officieusement démarré au début mars avec l'appel d'Alain Juppé qui disait comprendre la nécessité d'un accord de gouvernement, tandis que François Fillon se disait favorable à l'idée d'un contrat d'objectifs pour le quinquennat. En parallèle, avant le mois de juillet, les centristes vont choisir les investitures aux élections législatives, au risque de revoir leur copie en cas d'accord avec la droite. Et si un accord vient à être trouvé avant la primaire de novembre, les adhérents de l'UDI seront de nouveau consultés, comme leur président leur a promis. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange.
Oui, vous vous rappelez... c'est un grand sujet.
C'est un grand sujet, mais qu'il va falloir traiter très brièvement.
Je ne sais pas, alors je peux passer mon tour aussi. Mais vous vous rappelez le pamphlet de Sieyès sur le tiers-État
Je dis, c'est le martyr de Saint-Sébastien en direct.
Oui, absolument, mais vous savez, j'ai l'habitude. vous vous rappelez que Bayrou qualifiait le centrisme de tiers-État, ce qui était très excessif, mais vous rappelez le pamphlet de Sieyès sur le tiers-État, qui posait trois questions. Qu'est-ce que le tiers-État? Tout. Qu'est-il dans l'ordre politique? Rien. Que demande-t-il à être quelque chose? Je crois que ça s'applique au centre, ça. Le centre est absolument au cœur idéologique du conflit français. La polarisation droite-gauche s'est effacée auprès d'une polarisation entre le centre, autant en sens large du terme, disons de Macron à Juppé, des modérés, on appelle ça libéraux sociaux européens, on appelle ça partisans d'une société ouverte, d'une société démocratique et pluraliste, d'une économie ouverte, un refus de la xénophobie et d'une construction européenne, par rapport aux deux extrêmes, et notamment à l'extrême qui domine aujourd'hui en face, qui est le Front National. Et c'est un paradoxe, parce qu'on dit toujours que le centre a le derrière entre deux chaises, alors qu'en réalité, c'est bien à la fois et la droite qui est partagée entre le centre et le Front National, dans ses pulsions fondamentales, et la gauche qui est vraiment partagée entre une gauche de gouvernement macronienne ou valsienne, et puis une gauche traditionnelle, radicale, qui n'arrive pas d'ailleurs à trouver ses marques, qui sont en difficulté. Donc on a en réalité, le centre, ça devrait être la référence capitale. Qu'est-il dans l'ordre politique? Rien. Pourquoi n'est-il rien? C'est très simple. Parce que, un, nous sommes dans un système présidentiel et qu'il n'a pas de candidat évident à la présidentielle. C'est une communauté réduite aux aguets, le centre. Et donc, tout le monde se surveille, tout le monde se jalouse, personne, sauf Borloo qui reste dans les... Personne ne peut prétendre à quoi que ce soit. Donc, ils sont bloqués sur la présidentielle. Et deuxièmement, le scrutin majoritaire, et ça, il faut bien voir ça. Nous sommes maintenant, depuis les élections partielles qui viennent de se produire, il faut avoir conscience que le scrutin majoritaire à deux tours, dans un système multipartisan éclaté, comme celui que nous connaissons aujourd'hui, va produire une chambre totalement aberrante, où les Républicains auront à peu près 500 sièges et le reste rien du tout. Et là, le centre, donc, qui compte beaucoup, il a 29 sièges, il aura beaucoup de mal à avoir quoi que ce soit. Alors, bon, écoutez, moi je veux bien, mais si on peut plus dire, c'est un sujet très compliqué.
Si on peut plus l'aborder, on l'aborde pas. Il se trouve que les heures ont 59 minutes.
Oui, mais il faut le traiter sérieusement, sinon on l'aborde pas.
Thierry Pêche.
Oui, Jean-Louis est le plus intéressant de ses amis centristes, je veux le dire ici publiquement, parce que franchement, quand on regarde les débats de l'UDI, ils sont nettement moins intéressants que ceux que vous ouvrez à l'instant.
Je n'ai pas fini d'ouvrir.
Bien sûr, mais ne vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion d'y revenir, très probablement. C'est quoi le débat des centristes? C'est combien d'investitures? C'est ça. Et pour les raisons que vous avez dites, d'ailleurs, parce que le scrutin majoritaire à deux tours est impitoyable, et que si on n'a pas la complicité du grand parti frère, eh bien, on a peu d'investitures, et si on a peu d'investitures, on passe peut-être même pas les 12,5% des inscrits qu'il faut passer pour être au deuxième tour et espérer avoir un siège. Donc, évidemment, que la première question des centristes pour exister politiquement, c'est combien d'investitures vous nous laissez, messieurs les Républicains? Bon, c'est pour ça que l'histoire des primaires de la droite et du centre, c'est pour le moment une vaste blague, parce qu'une primaire de parti, on sait faire, les socialistes l'ont fait en 2011, les Républicains vont le faire en 2016, mais une primaire de coalition, ça suppose tout autre chose. Ça suppose qu'on met à l'ombre de la primaire toute la chaîne de décision électorale qui va déterminer le cycle de 2017, et notamment, et j'ai envie de dire, et d'abord, si on veut que les centristes participent, un accord sur les investitures. C'est pour ça que c'est même pas, malheureusement, si on écoute un peu ce qui se passe dans ces débats, on n'entend pas les différences du centre par rapport aux Républicains. On n'entend pas les frontières dont parle Jean-Louis entre Juppé d'un côté et puis une droite plus forte, plus dure de l'autre. C'est pas ça qu'on entend. Ils parlent même pas de ça. Je veux dire, c'est même pas un débat intéressant. On entend un truc de stratégie politique qui est lié au caractère vermoulu de ce qui est au cœur de la cinquième, le scrutin majoritaire à deux tours.
Nicole Disotto.
Oui, je crois qu'on dit tous à peu près la même chose. Moi, je suis très, j'ai très envie d'entendre la suite du développement de Jean-Louis sur le centre tel qu'il devrait être
et
le
centre. Ça aurait été intéressant.
Le centre tel qu'il devrait être et le centre tel qu'il est. Mais malheureusement, on ne connaît le centre que tel qu'il est, c'est-à-dire quelque chose qui est lui-même encore plus sclérosé dans sa difficulté à se renouveler que le bipartisanisme traditionnel de la France. Et ce qui frappe aujourd'hui dans ce débat de l'UDI à côté de ceux du MoDem, c'est l'extrême politisation, le marchandage. Même l'identité européenne du centre a disparu dans cette espèce de marchandage. C'est-à-dire que le centre avait deux cartes d'identité. C'était la modération sur le plan politique, y compris un libéralisme mais bon teint, et puis la valeur européenne. Alors celle-ci a totalement disparu alors qu'on est dans une crise majeure de l'Union européenne. Si on peut même plus compter sur les centres pour défendre l'idée européenne, on ne sait pas où on va. Donc ça, je crois que Jean-Louis a raison. Le centre devrait être, mais il ne l'est pas. Et il faut s'interroger là-dessus. Quand on voit comment les autres centres européens, en particulier dans deux pays, en Espagne et en Italie, ont réussi à se renouveler, Ciudadanos en Espagne, et puis le gouvernement italien lui-même de M. Matteo Renzi, alors c'est un centre-gauche, mais c'est quand même extraordinaire la façon dont ils ont réussi à devenir le centre de la vie politique. Donc l'Italie, notre modèle.
Michaela Figel.
Justement, je voulais rajouter un troisième pays, parce que CDU est la suite du centre du Zentrum, donc effectivement l'Allemagne, quand on veut comprendre la longévité des gouvernants allemands, on voit que c'est ceux qui gouvernent au centre, c'est à chaque fois ça qui fait leur force. Et on a bien vu que Madame Merkel était même allée d'un centre droit à un centre gauche, ce qui fait quand même, ce n'est pas sans risque, parce qu'aujourd'hui, on voit apparaître quelque chose à sa droite. Mais je pense qu'effectivement, c'est très regrettable, notamment pour la politique européenne de la France, que le centre soit aussi affaibli et déstructuré.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je serais tenté de dire, comme le vers de Sertorius, « Rome n'est plus dans Rome, elle est tout où je suis ». Le centre n'est plus dans le centre, il est ici. Bon, deux choses. Je crois que quels sont les deux problèmes fondamentaux pour le centre dans cette espèce de brouette de grenouille dont on a parlé à plusieurs reprises, pas ici mais de façon générale. Premièrement, et c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Thierry, c'est la prééminence présidentielle. Nous sommes dans un système, on aime ou on n'aime pas, c'est autre chose, de prééminence présidentielle. Donc le fait de s'abstenir, soit de présenter un candidat, ce qui n'est pas du tout une option souhaitable à mon avis, soit de soutenir un candidat sur des options idéologiques clairement identifiées, et évidemment ce ne peut être que Juppé par rapport à Sarkozy, indépendamment du pronostic de l'un ou de l'autre. Il y a une vision des choses qui est défendue par Juppé qui n'est pas la même que celle de Sarkozy. Le fait de s'abstenir de ce dossier, de ce débat et de jouer aux abonnés absents, c'est simplement le refus d'exister. Et deuxièement, c'est la non-correspondance entre les frontières des boutiques. Alors les frontières à l'intérieur de l'UDI et boutiques, c'est ridicule. Hein, l'alliance, le truc d'Arthuis, le truc de Morin, les radicaux, etc. Mais même entre les Républicains et le centre, il est évident que la frontière entre ce centrisme sans frontières dont je parle et qui devrait être, qui est le pôle fondamental d'une action de la politique française, et une attitude plus droitière, plus tournée vers la xénophobie, vers le refus de l'Europe, vers le protectionnisme, enfin vers tout un ensemble de choses que les Républicains prennent avec des pincettes ou ne prennent pas, etc. C'est à l'intérieur du Parti Républicain que ça se fait. Si bien que si les centristes voulaient exister, il faudrait qu'ils sortent de la mentalité de secte, de boutique qui est la leur et qui regarde enfin les idées fondamentales et effectivement l'idée européenne dont je rappelle que ça fait très longtemps parce que Bayrou n'a jamais été net sur l'Europe contrairement à ce qu'on pense et ça fait très longtemps que l'Europe est considérée par les centristes comme un boulet plus que comme un atout et quelque chose à défendre. Or au pire moment aujourd'hui, au pire moment de la situation européenne, nous voyons bien que on retourne constamment, quel que soit le problème, économique, terroriste ou autre, on revient à la nécessité de faire quelque chose avec l'Europe. Donc là, on tient, les centristes tiennent le bon bout idéologique, mais alors, ça n'a aucune importance pour eux, c'est les questions de boutique et une incompréhension persistante de ce qu'est la Ve République. Il faut en réalité qu'ils participent aux primaires, qu'ils soutiennent le meilleur des candidats, c'est-à-dire assez évidemment, je ne dis pas qu'il va gagner, hein, c'est autre chose, mais Alain Juppé, et qu'à partir de cela, ils construisent une force parlementaire en s'appuyant sur les éléments qui sont proches d'eux au sein des Républicains.
Thierry Pêche. Il me semble, cher Jean-Louis, que vous êtes dans un paradoxe et que vous n'en sortez pas. Vous ne pouvez pas demander à ce que le centre existe et applaudir à la Ve République en même temps. La Ve République telle qu'elle est faite aujourd'hui ne empêche, interdit que se crée.
Regardez Giscard.
Que se crée, mais ça n'est arrivé qu'une fois et dans des circonstances très particulières. Depuis, élection après élection, on a constaté qu'il n'y avait pas d'espace politique disponible dans ces institutions pour une force centriste et que donc la recomposition politique que vous semblez appeler de vos voeux au début de votre exposé et que vous enterrez à la fin en capitulant en disant il faut que tout le monde se donne rendez-vous autour de Juppé chez les Républicains, eh bien ça ne marche pas.
Mais si.
Non, ça ne marche pas. C'est-à-dire, soit vous voulez que le centre existe vraiment et à ce moment-là il y aura une grande recomposition du paysage politique et c'est le défi des années qui viennent, moi j'en ai la conviction, mais à ce moment-là il faut changer ces institutions, il faut créer un espace qui le rendent possible, soit vous dites, bah, tant pis, on garde la cinquième, mais le centre n'existera jamais. Et vous pourrez répéter sans cesse la formule de Seyès.
Thierry Pêche, vous seriez bien gentil de ne jamais plus enfermer Jean-Louis Bourlange dans un paradoxe à une minute du moment où les brèves vont commencer. Jean-Louis Bourlange.
Je veux dire que c'est simplement faux ce que dit Thierry sur ce plan-là. La dualisation de la droite a été une constante au cours des 30 dernières années. On a eu Giscard et les gaullistes, c'est Giscard qui a gagné. On a eu Barre et Chirac. Et si Barre a perdu, c'est parce que Barre avait toutes les qualités, sauf les qualités de candidat. Ensuite, on a eu Balladur, soutenu par les centristes, et Chirac, sur une ligne logique précise. Et Chirac a gagné par son habileté politique, etc. Mais c'était quand même des choses très équilibrées. Ensuite, il y a eu dislocation des libéraux avec Madelin, qui ont rejoint les Chiraciens et des centristes. Et c'est là que s'est produit quelque chose. Donc le problème n'est pas du tout une fatalité. Je ne vois pas pourquoi les idées du centre, si elles sont dominantes sur le plan national, ne pourraient pas traduire ne pourraient pas trouver en traduction politique. Le problème, c'est simplement une incapacité stratégique à mettre ensemble des gens qui sont proches les uns des autres, faute de candidats, etc. Et là, on n'est pas obligé. Moi, je me fiche complètement. J'ai soutenu Balladur contre Chirac et je crois que j'ai eu raison, même si Balladur n'était sans doute pas le meilleur candidat. Mais on voit bien, par ce qui s'est passé par la suite, que notamment la crise de l'Europe qui a commencé à ce moment-là, que le clivage, les conséquences politiques de ce choix étaient très lourde. Et là, c'est la même chose. Il y a une différence idéologique. Il faut l'assumer et il faut oublier les problèmes de boutique dont tout le monde se fout.
On ne peut sortir de ce paradoxe considérant que le centre est de droite, ce que vous faites.
La suite est reportée, ça y médaille, car l'heure qui vient de sonner est l'heure des brèves que je vais ouvrir rapidement en signalant donc que vous pourrez trouver sur notre site le lien avec l'article du sénateur Destex paru dans La Libre Belgique qui consacre donc tout un article à Molenbeek et à son histoire récente. Et puis, je voudrais aussi dire que j'ai souvent ici eu l'occasion de dire tout le bien que je pense et tout le bien que je tire de la lecture de la revue Books. Et cette revue est dans une phase de développement, et pour cette phase de développement, elle est dans un processus de financement participatif, de crowdfunding, comme on dit. Et vous trouverez aussi les références de cette possibilité de participer au développement de Books sur le site de l'émission. Michael Avigel.
Être ici est une splendeur. C'est une citation de Rilke que j'applique bien sûr aussi sur cette émission, mais c'est surtout le titre de la première, je crois, biographie française de la peintre allemande Paula Modersohn-Becker par Marie Dariussecq. Et je recommande vivement cette biographie et surtout l'exposition qui va être prochainement ouverte au Musée d'Art Moderne, puisque c'est une peintre absolument à découvrir. Malheureusement, elle est morte très jeune suite à une grossesse, enfin un accouchement. Elle vient de Brême, donc de chez moi, et vraiment cette exposition s'annonce fort intéressante.
Merci, Nicole Diesotto.
Alors moi, je recommande le dernier ouvrage de Maïlys de Kerangal, qui s'appelle Les chemins de table, paru au Seuil, et qui est non pas un roman, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, mais qui est une tranche de vie, celle d'un jeune homme passionné de cuisine, entre 17 et 25 ans, et c'est totalement extraordinaire. C'est une collection au Seuil qui s'appelle Tranche de vie, qui a été créée par Pierre... Qui a été créée par Pierre Rosanvallon, et donc et qui a passé commande donc à Maïlys de Kerangal, et elle excelle dans le portrait de ce jeune homme d'origine italienne qui regarde Top Chef. J'ai enfin compris pourquoi tous les jeunes regardent Top Chef, et c'est absolument fabuleux.
Thierry Pêche.
Alors, à propos de Maïlys de Kerangal, je vous recommande, je l'avais dit ici, mais maintenant ça passe au théâtre de Sartrouville, la mise en scène de Sylvain Maurice, à partir de Réparer les vivants, livre magistral de Maïlys de Kerangal, où vous retrouverez le son de Claude Simon dans des formes absolument renouvelées. Donc le théâtre de Sartrouville, je crois que ça passe à partir de début avril. Cherchez, vous trouverez, j'y suis allé, j'ai eu la chance de voir ça en avant-première. C'est une merveilleuse mise en scène. On retrouve d'ailleurs les grandes figures d'un mythe qui est peu illustré aujourd'hui, je trouve, à la fois sur la scène et dans la littérature, qui est le mythe d'Orphée. C'est très très beau. Voilà, allez-y.
Je vous remercie. C'était pas l'histoire du sire de Framboisie comme chant. C'était l'histoire du sire de Framboisie. C'était l'histoire de Madame de Rémusat par Jean-Louis Bourlanges. C'était en 3 épisodes. Il y a eu l'épisode Ré, l'épisode Mu, et maintenant voilà l'épisode Za.
Voilà, c'est Madame de Ré, Madame de Mu, Madame de Za. Madame de Rémusat est une honnête femme. Alors oui, je me reprends pour la troisième fois.
Merci.
Merci. Je voulais simplement dire que ce livre qui est donc que j'ai déjà évoqué, je vous dirai, cher ami, Lettre Madame de Rémusat à son mari, 1804-1813, paru au Mercure de France. C'est en parallèle avec les mémoires de Madame de Rémusat. Madame de Rémusat a des mémoires très intéressantes sur la vie sous l'Empire, sur ses rapports avec Napoléon, etc. Qu'elle observe avec un mélange de critique et de sympathie qui est assez précieux. Et là, c'est complètement différent, c'est Madame de Rémusat dans sa vie privée, une épistolière de grand talent, et ça permet de saisir un moment de la civilité, comme dirait notre ami Philippe Reynaud, un moment de la civilité familiale à la charnière du 18e et du 19e siècle. C'est quelque chose de tout à fait précieux. C'est ce qui caractérise Madame de Rémusat, c'est l'acceptation de la conception rousseauiste de la famille, où on se tourne vers les sentiments redeviennent importants, l'éducation redevient importante, et en même temps, Rousseau, qui était quand même assez réac sur ce plan-là, c'est une conception patriarcale et les femmes en dehors de la vie publique. Et ce que montre ce livre, c'est à quel point il arrive dans la société française du début du 19e siècle, en fait, les valeurs de la civilité intérieure, de la civilité intime par rapport à la barbarie publique qui est incarnée par l'Empire sont précieuses. Et je voudrais lire quelques lignes de Madame de Staël qui illustrent parfaitement la chose. Madame de Staël écrit « Plusieurs avantages d'une grande importance pour la morale et le bonheur d'un pays se trouveraient perdus si l'on parvenait à rendre les femmes tout à fait insipides ou frivoles. Elles auraient beaucoup moins de moyens pour adoucir les passions furieuses des hommes. Elles n'auraient plus, comme autrefois, un utile ascendant sur l'opinion. Ce sont elles qui l'animaient dans tout ce qui tient à l'humanité, à la générosité, à la délicatesse. Il n'y a que ces êtres, en dehors des intérêts politiques et de la carrière de l'ambition, qui versent le mépris sur toutes les actions basses, signalent l'ingratitude et savent honorer la disgrâce quand les nobles sentiments l'ont causée. Durant le cours de la Révolution, ce sont ces mêmes femmes qui ont donné le plus de preuves de dévouement et d'énergie. Jamais les hommes en France ne peuvent être assez républicains pour se passer entièrement de l'indépendance et de la fierté naturelle aux femmes. Alors je ne donne pas ce modèle, c'est un modèle inégalitaire, mais c'est une formidable transition entre la femme dominée de l'ancien temps et la femme libre que nous essayons
nous essayons de nous accoutumer.
Absolument, c'est le mot que je cherchais.
C'était L'Esprit Public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Adrien Azelli et Anne-Sophie Pierry, avec aujourd'hui à la technique Bernard Laniel. Vous avez rendez-vous avec Alain Crugère pour On ne parle pas la bouche pleine à l'occasion du Festival Littérature au centre de Clermont-Ferrand. Il est question du rapport entre les écrivains et leur alimentation. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle édition de L'Esprit Public.